L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour cette deuxième édition du Gazette Africa, enregistrée le jeudi 17 février, Marie-Claude va vous parler de son expérience au Burkina Faso. Puis dans une deuxième partie, Arnaud Ouedraogo nous parlera de la cellule d'enquête Norbert Zongo.
Moi, je vais vous parler d'une expérience, on change un peu, là, c'est vraiment du vécu, et du vécu ancien, mais qui continue à me bouleverser, et qui me bouleverse d'autant plus quand j'entends tout ce qui vient d'être dit. Donc, je commencerai par « On ne libère pas un homme se libère », ainsi parlait Norbert Zongo. Donc, Norbert Zongo, c'était un journaliste qui avait roulé sa bosse un petit peu dans le pays, et qui, en 1993, a créé l'Indépendant. Donc voilà, on avait l'Observateur déjà, voilà, Palga. Et lui-même, il a créé son propre journal. Et c'était un journalisme d'investigation, de défense des libertés, de défense de la démocratie. Et c'est un homme qui rapidement avait pris une envergure internationale, qui donnait des conférences, enfin vraiment qui était très très investi. Et qui était évidemment hyper connu. Et je dois dire que le jeudi au Burkina, on attendait impatiemment la parution de son journal qui paraissait le jeudi. Donc. Et j'avais été, donc ça faisait, moi j'allais au Burkina depuis 1995, donc ça faisait 3 ans, et j'avais eu le temps de me rendre compte, enfin ce que disait Thibault, et de ce qu'il a dit, d'ailleurs c'était bien parce qu'il me l'a confirmé lui en tant que professionnel, c'est-à-dire la qualité d'écriture, la qualité du niveau d'information et la qualité du niveau de diffusion. Sans oublier la qualité littéraire, parce que, par exemple, si vous achetez le livre, je vous le recommande, vous verrez déjà la préface d'Edouard Ouedraogo, qui s'appelle donc de Zola Ouaga, et qui est un petit bijou vraiment de littéraire, bon, sans parler effectivement de la qualité littéraire aussi du livre de Thibault. Donc j'étais vraiment émerveillée quand même de cette qualité-là, parce que justement, cette vision qu'on peut avoir de l'Afrique, quand Thibault vous explique quand même à l'époque la presse, la liberté de la presse était un peu avant celle de la presse en France, donc on voit bien quand même qu'il y avait une liberté et que quand même les âmes, les habitants y tenaient énormément. Et il se trouve que le 11, alors vous allez voir pourquoi je me souviens de ces dates, le 11 décembre 1993, aux alentours de 19h-20h, je me rends chez notre compteur, Irénée, 98, je me rends chez notre compteur et pour, vous savez, quand on part au pays, il y a toujours des petites choses à transporter, des lettres, etc. Le courrier marche pas très bien, etc. Donc, je me rends à son domicile et on prend un pot avec 2 autres amis africains. Et voilà, et une petite conversation comme ça, et tout à coup, le sujet vient sur Norbert Zongo, parce qu'il était en train, à ce moment-là, d'enquêter sur l'assassinat du chauffeur du petit frère du président, François Compaoré, sinistrement connu au Burkina d'ailleurs, au pays, et qui est toujours on attend toujours son extradition française, qui a été quand même avalisée, etc. Mais bon, pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Et il était en train de faire une enquête pour bien prouver que, parce que ça avait été maquillé. Alors c'était extraordinaire parce que là-bas, on connaît tous les détails. Enfin, moi, je sais que c'est des choses, tous les détails. Je savais que, bon, en fait, il avait surpris des choses pas très catholiques au palais du président, qu'il était vite parti, et qu'en fait on l'avait assassiné et qu'on avait mis une mallette pleine de billets en faisant croire qu'il était en train de s'enfuir, de voler de l'argent, etc. Et donc Norbert Zongo était vraiment très avancé dans cette enquête et donc nous parlons avec nos amis et tout, et puis vraiment à la fois de l'admiration de son courage et en même temps des risques qu'il prend. Et je m'entends encore dire non, ils vont pas oser l'assassiner, il est trop connu, il a trop de valeur, c'est quelqu'un qui est trop connu et qui a une réputation internationale. Donc ça, c'était le 11 au soir. Le 13 au matin, très tôt, je prends l'avion de Montpellier, je prends mon vol et j'arrive le 13 vers 18h à Ouaga, à l'aéroport de Ouaga. Des amis viennent me récupérer, ils me conduisent à mon petit hôtel avec la case. J'ai toujours une petite case, bon, c'était un peu comme la maison là-bas. Et ils me déposent, et puis bon, j'étais fatiguée, et ils me disent, bon, ben, on viendra demain matin te récupérer, etc. Une heure après, ils reviennent. Et ils étaient dans un état, 19-20 heures. Non, Marie-Claude, on vient de prévenir, voilà, Norbert Zongo a été assassiné, il a été brûlé vif avec son chauffeur, son frère, etc. Enfin, vraiment, en revenant d'une partie de chasse, enfin, on savait tout, je savais tous les détails. Et là, actuellement, le corps a été transporté à la morgue et il y a les jeunes du Burkina qui ont sorti, je vous dis ce qui s'est passé, hein, qui ont sorti les portraits de Thomas Sankara. Parce que moi, depuis que j'allais au Burkina, j'étais toujours étonnée. Thomas Sankara qui avait été assassiné, donc Thibault a fait allusion tout à l'heure. Et depuis, il y avait une omerta sur le nom de Sankara, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, et donc les jeunes veulent récupérer sa dépouille, aller l'enterrer. Parce que quand on sait que Thomas Sankara, pendant très longtemps, on n'a pas vraiment su où il était enterré, il a fallu vraiment 30 ans pour arriver à peu près à avoir une certitude qu'il était enterré, parce qu'on ne savait pas. Et donc, ils veulent l'enterrer là-bas. Donc, au moins, surtout, tu ne sors pas et demain, on vient te récupérer. Et pendant 48 heures, ils sont venus me récupérer, on se réfugiait les uns chez les autres. Et il y avait un pays qui était dans un état émotionnel et d'ébullition extraordinaire. Et ce qui se disait aussi en coulisses, c'est que quand même, en fait, c'était une entreprise du petit frère, d'ailleurs il a été reconnu coupable, du président, et que même le président, connaissant l'envergure de ce journaliste, peut-être ne se serait pas risqué à quelque chose d'aussi voyant. Donc ça a été vraiment assez terrible. En plus, moi, j'ai eu des... Vraiment, je me disais, mais voilà, j'arrivais pas à le croire, puisqu'on en parlait il y avait si peu de temps avant. Et j'ai attendu 2 ou 3 jours, puis j'ai fini par prendre mon bus pour Bobo, puisque je vais à Bobo. Et il se trouve que le jeudi... Les élèves d'un grand lycée qui était jumelé avec un lycée de Montpellier m'accueillent et m'offrent la visite du musée à Bobo, donc un très joli musée. Et après, je leur offre un pot à boire dans une buvette à côté. Et là, on est allé acheter religieusement. On était tous avec toute cette bande de lycéens. On est allé chercher le dernier numéro de l'Indépendant, où il y avait le dernier article de Norbert Zongo vivant. Ça a été un moment assez extraordinaire. Voilà, donc j'ai fait mon séjour. Je suis revenue avec mes amis qui m'ont dit qu'effectivement, ils avaient aussi beaucoup pensé à moi, à nous, parce que vraiment, on n'y croyait pas. Et bien sûr, le 13 décembre 1999, il est évident, et tout le monde là-bas savait, que je retournerai au pays pour le 13 décembre, pour la commémoration. Et je peux vous dire que l'impact de cette commémoration, le millier de gens qui ont défilé, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, qui prouvait vraiment l'impact qu'avait eu ce décès, cet assassinat, sur la population, et donc la marque que laissait cet homme, hein, ce journaliste, dans son pays. Et donc, on est allé assister avec un ami, il y avait un grand discours après à la Bourse du Travail, je suis allé saluer les sages qui étaient réunis, etc. Enfin, ça a été vraiment un très grand moment de recueillement, des milliers de personnes sans un bruit. Des fois, en France, on ferait bien d'aller prendre des leçons. Vraiment, qui était là, vraiment dans une ferveur et dans une détermination. Et voilà. Et puis, pour dire qu'après, évidemment, ce procès, sous l'influence de la rue, il y avait eu un pseudo-procès qui avait... Bon, voilà. Et ça a été relancé, puis réarrêté. Et puis, la Cour internationale, je crois, a ordonné de réouvrir l'enquête. Et je crois qu'il y a eu un jugement en 2013, finalement, qui a été fait pour ce... Je ne sais pas si ça a été... Ou un peu plus tôt, mais il y a eu des choses, mais ça a été un rebondissement, etc. Et puis entre-temps, ben voilà, il s'est créé cette cellule Norbert Zongo, dont notre ami Arnaud, et puis sûrement Thibault, puisqu'ils se connaissent bien, va nous parler. Et je dois dire que quand même, franchement, pour dire l'impact qu'a eu cet homme-là, parce que ça a donné naissance, il va vous expliquer, à vraiment une cellule qui est très très importante pour la liberté de la presse, pour la liberté de l'homme, voilà. Et je finirai avec une petite phrase de Thomas Sankara qui disait « On ne tue pas les idées, On peut tuer un homme, mais on ne tue pas ses idées. » Voilà. Et je dois dire que les idées de Norbert Zongo et ses idées de liberté, elles sont bien encore vraiment présentes partout. Et elles sont présentes particulièrement ici aussi. Voilà, merci.
Oui, donc effectivement, le Burkina, qui est le pays de l'observateur Palga, mais aussi de Norbert Zongo, donc un pays assez important en Afrique de l'Ouest pour la liberté de la presse. Et juste, donc si vous entendez, le nom va peut-être revenir un peu dans l'actualité aussi, Norbert Zongo, parce que son procès va peut-être s'ouvrir aussi cette année, avec peut-être l'extradition de François Compaoré, donc le frère de Blaise Compaoré, l'ancien président, et qui est toujours en France. Et là, donc Édouard Philippe, quand il était encore Premier ministre, avait signé le décret pour qu'il puisse être extradé. Mais après, il y a eu multiples appels, etc. Et là, en ce moment, le Conseil d'État, la cour d'appel, je crois, puis le Conseil d'État ont validé. Mais les avocats de François Compaoré ont fait appel devant le Conseil européen des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, pardon. Et du coup, c'est suspensif. Donc pour l'instant, c'est toujours en attente. Mais peut-être qu'il sera extradé ou alors peut-être qu'il sera jugé aussi par consumace parce que l'enquête est quasiment bouclée aussi sur place. Donc peut-être que 24 ans après les faits, il y aura peut-être le procès et puis un jugement qui sera rendu comme dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara d'ailleurs, qui est en cours en ce moment. Donc je vous propose d'écouter Arnaud. Comme on n'était pas sûr de la connexion Internet, on lui a demandé d'enregistrer une petite vidéo pour qu'il nous présente la cellule d'enquête Norbert Zongo, dont il est coordonnateur. Après, j'espère qu'on aura la chance de pouvoir lui poser quelques questions et d'interagir avec lui. Africa.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon lagnan. Manejamo Africa, moi sunyo natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kondiamo Africa, mon lagnan. Manejamo Africa, mon sunyo natange. Africa, Africa. Gatien khasi dagal Yo Allah sugen edi musibaji Yo Allah adu jam torwanda Yo Allah adu jam to Burundi Yo Allah adu jam to Kazamas Laul min jona
Nous venons d'écouter le titre Jammu Africa de Ismaël Lo. Nous passons maintenant à l'interview d'Arnaud Ouédraogo.
Je suis Arnaud Ouédraogo, je suis le coordonnateur de la CELU Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, CENOZO. La CENOZO est un réseau de journalistes d'investigation créé en 2015 pour promouvoir le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest en matière de lutte contre la corruption, de crimes organisés, de crimes environnementaux et de promotion des droits humains au bénéfice d'une Afrique de l'Ouest démocratique et où la redevabilité des dirigeants est de mise. Aujourd'hui, le journalisme d'investigation est en plein essor en Afrique de l'Ouest. Historiquement, les premiers grands noms du journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest remontent au début des années 90, avec notamment Norbert Zongo assassiné le 13 décembre 1998. Et justement, en hommage, la CENOZO porte son nom. Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi? On a une jeune génération de journalistes d'investigation qui essaient de travailler selon les normes, mais qui sont dans un contexte assez difficile, assez hostile à la pratique de ce genre. Et il s'agit notamment de jeunes démocraties où les institutions ne sont pas suffisamment fortes pour garantir la liberté d'expression et l'accès aux sources d'informations dont on a besoin pour pratiquer un journalisme de qualité. Il s'agit aussi, au regard de ces dernières années, du retour de, j'ai envie de dire, de l'épidémie des troisième mandats et aussi de celle des coups d'État. Preuve de plus qu'il est nécessaire en fait que le journalisme d'investigation soit pratiqué et pratiqué de bonne manière. À côté de tout cela, vous avez certaines puissances économiques, militaires, et même politiques, qui sont, je le disais, hostiles à la pratique du journalisme d'investigation. Et cela se ressent par le nombre de procès intentés contre les journalistes d'investigation, par les intimidations, les attaques et même des meurtres parfois. Face à cette situation, il faut bien que quelqu'un réagisse, il faut bien une chaîne de solidarité. C'est pourquoi au niveau de la CENOZO, nous avons mis en place ce que nous appelons le fonds de solidarité pour les journalistes en danger. Ce fonds, c'est vrai qu'il est embryonnaire, c'est pas grand-chose. Open Society Foundation, à travers le bureau ouest-africain Osiwa, nous a octroyé 10 000 dollars depuis 2 ans maintenant, avec lesquels nous essayons d'aider les journalistes qui ont besoin d'un avocat pour faire face à des plaintes devant la justice. Et ce fonds également permet aux journalistes en danger de subsister de temps en temps, parce que les pressions vont jusqu'à couper tous les circuits économiques légaux des journalistes afin que ceux-ci ne puissent plus s'en sortir, afin que ceux-ci ne puissent plus pratiquer ce type de journalisme qui consiste à exposer les dérives des dirigeants. Donc, on a pensé que la réponse à cela, c'était la solidarité et c'est pourquoi on a mis en place ce fonds. Depuis 2015, année de création de la CENOZO, c'est près de 500 journalistes qui ont été formés dans différents domaines du journalisme moderne, notamment le data journalisme, le flux financier illicite, les industries extractives, la pratique même du journalisme d'investigation, le fact-checking, le journalisme sensible aux gens, et j'en passe. Donc, c'est près de 500 journalistes qui ont été formés à travers toute l'Afrique de l'Ouest depuis 2015 et à peu près 150 enquêtes de haute qualité éditées par la CENOZO. Donc, on peut dire qu'en 5-6 ans, la CENOZO a fait un grand boulot en augmentant le nombre de journalistes qui pratiquent au quotidien l'investigation, ce qui concourt bien sûr à une plus grande liberté d'expression et à un plus grand contrôle de l'action publique. Nous sommes dans un contexte ouest-africain où, avec cette jeune démocratie balbutiante, avec le retour des coups d'État et les velléités de troisième mandat des chefs d'État en place, avec ces institutions qui sont poreuses, il est nécessaire d'avoir un journalisme de qualité, un journalisme fort qui dénonce, qui met à nu l'état de la société, de la gouvernance. C'est pourquoi, en fait, il est nécessaire qu'il y ait une communauté ouest-africaine de journalistes d'investigation. Et c'est à ce à quoi la CENOSO s'attelle. Aujourd'hui, il y a cette nécessité qui n'a pas besoin, en fait, qui ne souffre pas de débat. Mais le journalisme d'investigation a un coût. C'est un genre chronophage, c'est un genre coûteux, c'est un genre difficile. Maintenant, toutes ces choses-là font que ce n'est pas le genre le plus pratiqué dans les maisons de presse, dans les salles de rédaction en Afrique de l'Ouest. Et cela s'entend bien. Les médias sont économiquement pauvres sur le plan législatif. Et d'un pays à l'autre, parfois, ils ne sont pas suffisamment protégés par les différentes lois. Et pire, les sources de financement d'un journalisme de qualité deviennent de plus en plus rares. C'est pourquoi une organisation comme la CENOSO s'attelle à trouver des financements auprès de certains organismes donateurs à travers le monde pour mettre en place des programmes de soutien à la production d'investigations de qualité, des programmes de renforcement des capacités des journalistes. C'est dans ce cadre justement que nous avons pu, en 5-6 ans, éditer près de 150 enquêtes avec le soutien bien sûr d'organismes donateurs à travers le monde. Donc aujourd'hui, la vraie problématique de notre sous-région, c'est le journalisme d'investigation pour l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais qui paye? Qui paye pour ce journalisme de qualité? Les dirigeants de nos pays ne sont pas disposés à le faire. Les médias ont envie de le faire, mais n'ont pas les moyens pour le faire. Aujourd'hui, il est nécessaire que l'on se mette en réseau, comme la CENOSO, pour être plus fort ensemble, pour avoir une voix qui porte et pour aller vers les organisations internationales, vers les diplomaties occidentales qui ont foi en la pratique du journalisme de qualité, qui ont foi au bien fondé d'un tel journalisme pour arriver à une Afrique de l'Ouest plus démocratique, dépourvue en fait de tout cet art que l'on connaît depuis les années 60. Au regard en fait des défis liés à la pratique du journalisme d'investigation, à la CENOSO, on a estimé à un certain moment que le rôle du journaliste ne devrait plus se limiter à juste dénoncer et exposer les faits. À partir de 2022, nous allons essayer de mettre en place certains projets liés à la pratique du journalisme de solution qui consistent, au-delà de diagnostiquer les problèmes, d'exposer les faits et de violations des procédures et des droits humains, de proposer des solutions pour répondre à ces maux-là. Au fil des années, on a fini par avoir l'impression que ceux qui gouvernent l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique dans son ensemble, n'ont pas la solution aux problèmes que les journalistes dénoncent au quotidien. Donc, pourquoi les journalistes ne proposeraient pas des problèmes de solution? Cela ne veut pas dire que les journalistes veulent se substituer aux dirigeants ou que les journalistes veulent se substituer aux décideurs politiques, mais cela, c'est la contribution en fait des journalistes professionnels à aller vers une résolution des différentes crises. La CENOSO, depuis sa création, a fait aussi de la pratique du journalisme collaboratif, de l'enquête transfrontalière, sa spécialité. La première expérience de CENOSO, c'était les West Africa Leaks que nous avons réalisé en collaboration avec le Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, qui est basé à Washington. Pour ce projet, premier projet, 15 journalistes de l'Afrique de l'Ouest étaient réunis pour travailler sur 13 histoires dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui avaient exposé des cas de flux financiers illicites et des cas de corruption dans différents pays. Après cette expérience, la CENOSO a rébelloté dans un autre projet collaboratif à travers le Money Laundering in Real Estate Men, c'est-à-dire le blanchiment d'argent dans l'immobilier. Ce projet avait permis à la CENOSO de diffuser une dizaine d'enquêtes sur le blanchiment immobilier qui concernait également des dirigeants ouest-africains. La troisième expérience en 2020, c'était les FinCEN Files, avec toujours la collaboration de l'ICIJ et son partenaire BuzzFeed. Ils avaient eu accès à des données qui émanaient du Trésor américain, notamment de son département de contrôle, de son département d'audit, qui avait capté certaines transactions illicites ou qui paraissaient illicites provenant de différentes régions du monde. Et la CENOSO avait piloté l'aspect africain de ce projet-là, où nous avons édité une vingtaine d'enquêtes sur ces cas-là. Et récemment, CENOSO était partie prenante des Pandora Papers, la dernière enquête mondiale en date. Là encore, CENOSO a fait le lead pour une vingtaine d'histoires en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale et orientale. Donc, c'est dire que, au-delà du journalisme d'investigation classique, nous sommes de plein pied dans le journalisme collaboratif, dans l'enquête collaborative, et cela va au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. La collaboration est maintenant au niveau transcontinental. Et ça, c'est la marque déposée aussi de CENOSO depuis quelques années. Et comme je disais tantôt, il est temps maintenant de passer aux solutions. Parce que CENOSO et l'ensemble des journalistes africains, les journalistes du monde même, ont passé le temps à exposer les faits, à dénoncer des situations. Il est temps pour les journalistes de participer à la construction, de participer au solutionnement des problèmes qu'ils dénoncent. Et c'est pourquoi nous allons nous jeter de plein pied dans le journalisme de solution.
Vous venez d'écouter le second épisode de Gazette Africa, enregistré le jeudi 17 février à la Gazette Café.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.